Vous écoutez On lit pour vous.
La STM et la STL fusionnent leurs services de transport adapté. Un texte de Camille Gaillard, publié le 13 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. La Société de transport de Laval, STL, et la Société de transport de Montréal, STM, s'entendent jusqu'en 2030 pour fusionner leurs services de transport adapté, lesquels seront 100% sous-traités à partir du 1er janvier prochain. Cela permettra des économies d'environ 16 millions de dollars par année sans affecter le service, assure-t-il. Avec la STM, on va profiter de leur centre de réservation des déplacements et de toute la logistique de transport, confirme Christine Gauvreau, directrice exécutive de l'expérience client à la STL. On reste responsable des clients lavallois, de leur admission, et on continue à veiller à la qualité de service de manière conjointe avec la STM. Concrètement, la STL, qui faisait affaire avec les entreprises Chartrand depuis 2006 et Coop Taxi Laval depuis 1986, mettra fin à ses collaborations le 31 décembre prochain. C'est à partir de cette date que la gestion des réservations et des déplacements sera confiée à la STM. Les méthodes de réservation et les tarifs resteront inchangés. Aussi, la STM, qui sous-traite déjà 90 % des déplacements en transport adapté, les confiera entièrement au privé et mettra au garage ses 86 minibus restants d'ici la fin 2025. De cette manière, ce sont des transporteurs privés qui aideront à se déplacer les quelques 45 000 clients du transport adapté qui se trouvent à Montréal et à Laval. Selon Ahmed Bouhamida, chef du transport adapté à la STM, le service sera au rendez-vous, puisqu'il constate les mêmes taux de satisfaction pour les clients transportés par des fournisseurs externes que par la STM, par les minibus blancs. Le nombre de places pour les fauteuils affectés? Dans le parc actuel de la STL, certains véhicules transportent jusqu'à 10 personnes dans des sièges standards ou jusqu'à 6 personnes en fauteuil. On va offrir 3 types de véhicules, le taxi berline, le taxi accessible et la fourgonnette accessible, qui remplace le minibus pour répondre à l'entièreté des besoins spécifiques, explique Ahmed Bouhamida. Le parc de la STM compte 350 de ces fourgonnettes pouvant accueillir un fauteuil fixe et un ancrage pour l'aide à la mobilité, ainsi que 5 places assises. D'autres véhicules de ce type s'ajouteront, indique M. Bouhamida, pour répondre aux besoins des 2 sociétés de transport. Soulignons que c'est 15 % de la clientèle lavalloise du transport adapté qui se déplace à l'aide d'un fauteuil roulant. On capitalise sur une collaboration entre 2 sociétés de transport pour aller chercher des économies, mais sans impacter l'expérience client. Au contraire, peut-être même améliorer certains volets. Donc les gens ne vont pas perdre les possibilités de se déplacer comme ils le font aujourd'hui, dit Ahmed Bouhamida. La STM affirme que ces configurations de places régulières et pour fauteuils n'affecteront pas le nombre de déplacements. Des économies estimées à 16 millions de dollars par année. Cette fusion des services de transport adapté survient un an après les conclusions de l'audit de performance sur le transport collectif commandé par Québec. Cet audit recommandait d'ailleurs de confier une part des services à des fournisseurs privés afin de réduire les déficits des sociétés de transport. La STL estime que l'entente permettra de faire des économies de 1,3 million de dollars par année à partir de 2026. Rappelons qu'en 2024, le budget consacré au transport adapté était de 15,3 millions de dollars. C'était « La STM et la STL fusionnent leurs services de transport adapté », un texte de Camille Gaillard, publié le 13 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Thank you.
Réservation?
Oui, pour une personne. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 25 septembre 2025 dans La Presse. Les Canadiens ne renoncent pas aux restaurants, mais ils les redéfinissent. Ils troquent les soupers pour les petits-déjeuners, les sorties en groupe pour les repas en solo et les petits plaisirs pour des prix abordables, indique un rapport de Restaurants Canada. Le secteur de la restauration au Canada entre dans une phase de transition. La hausse des coûts incite les gens à renoncer aux repas au restaurant et à retourner dans leur cuisine. 3 Canadiens sur 4 déclarent désormais manger moins souvent au restaurant en raison du coût de la vie. Dans les restaurants offrant un service complet, les dépenses par personne sont passées d'environ 1 165 $ en 2019 à environ 1 035 $ en 2025. Les restaurants à service rapide s'en sortent un peu mieux, mais les dépenses y ont également baissé, passant de 1 150 $ à environ 1 135 $. Ces données témoignent d'une nation qui réévalue ce que signifie manger au restaurant et à qui cela s'adresse réellement. Les changements les plus marquants concernent sans doute le moment. Les visites à l'heure du déjeuner dans les établissements de restauration rapide ont augmenté de 7,6%, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, en grande partie parce que les employés de bureau retournent progressivement dans les tours de bureaux du centre-ville et recherchent des repas rapides et abordables. Le déjeuner, qui représentait autrefois une part marginale des ventes dans le secteur de la restauration, est également en pleine expansion et représente désormais plus de 11% des commandes, soit une augmentation modeste, mais régulière. Ce sont là les nouvelles perspectives de croissance, moins axées sur les grands soupers au restaurant et davantage sur les repas efficaces et fonctionnels pris pendant la journée de travail. Mais ce qui pourrait s'avérer le plus important à long terme, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui mangent seules. Près de la moitié des Canadiens déclarent avoir déjà mangé seul au restaurant et les réservations pour une personne ont augmenté de près de 30% par rapport à l'année dernière. À Toronto, environ la moitié des clients déclarent avoir choisi de sortir seuls et ils sont de plus en plus nombreux à préférer les tables classiques aux tabourets autour du bar. Cela marque un changement culturel. Pendant des décennies, les restaurants ont été considérés comme des lieux destinés aux familles, aux amis ou aux rendez-vous amoureux. Aller au restaurant signifiait autant la recherche de compagnie que la découverte d'un menu. Le fait que tant de Canadiens se sentent désormais à l'aise de manger seuls en dit long sur l'évolution de la société. Manger seul reflète à la fois l'indépendance et l'évolution des modèles sociaux. La diminution des sorties en groupe pourrait signifier une dépendance moindre vis-à-vis des restaurants en tant que lieu de rassemblement communautaire, et même un rôle réduit pour le traditionnel souper romantique dans la séduction. La culture numérique a déjà transféré une grande partie de notre vie sociale sur les écrans. Les restaurants, qui représentaient autrefois des lieux essentiels pour les relations humaines, pourrait de plus en plus servir un objectif fonctionnel. Un endroit où bien manger rapidement et sans attendre la compagnie d'autres personnes. Cela pourrait se traduire par une diminution des repas à plusieurs services, une baisse de la consommation d'alcool et une réduction de l'addition moyenne. Pour les restaurateurs, cela remet en question la rentabilité de leur activité. Pourtant, manger seul n'est pas une condamnation à mort pour les restaurants, mais plutôt une transformation. Un repas pour une personne peut toujours s'avérer une expérience agréable si les restaurants s'adaptent. Des menus avec des portions plus petites, des configurations de places confortables avec des sièges individuels et des ambiances qui accueillent les personnes seules, plutôt que de les rendre mal à l'aise, peuvent transformer le client solo en client fidèle. En fait, cela pourrait bien constituer le prochain débouché. Concevoir des espaces qui ne se contentent pas de tolérer les personnes seules, mais qui les accueillent et les honorent. Cette évolution montre la direction que prend la culture alimentaire au Canada. Le souper assis, autrefois le summum de la restauration, perd peu à peu du terrain au profit des petits déjeuners sur le pouce, des lunchs rapides pris pendant la journée de travail et de la banalisation des repas en solo. Les restaurants devront repenser la conception de leur menu, l'utilisation de leur espace et leur stratégie marketing. Les décideurs politiques doivent également reconnaître que le secteur de la restauration emploie des centaines de milliers de Canadiens et joue un rôle essentiel dans les économies urbaines. Ignorer cette transformation serait faire preuve d'un manque de vision à long terme. La table de cuisine est peut-être redevenue le centre de la culture alimentaire canadienne, mais la table au restaurant n'est pas en voie de disparition. Elle doit se redéfinir en devenant plus personnelle, plus fonctionnelle, moins axée sur les rituels sociaux et davantage sur les choix individuels. Les restaurants qui survivront et prospéreront sauront reconnaître cette réalité et adopteront une nouvelle approche. L'avenir ne consiste pas seulement à nourrir des groupes, mais à nourrir des individus, une table à la fois. C'était Réservation? Oui, pour une personne. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 25 septembre 2025 dans La Presse.
Et s'il n'y avait pas eu d'accord de Paris sur le climat, on en serait où? Un texte d'Étienne Leblanc, paru le 8 novembre 2025 sur Radio-Canada. Citation: c'est un petit coup de marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Fin de citation. La formule est passée à l'histoire. Il y a 10 ans, le 12 décembre 2015, Laurent Fabius, alors ministre français des Affaires étrangères et président de la COP21, a fait résonner son petit maillet sur le socle pour confirmer l'adoption à l'arraché de l'accord de Paris. Un moment historique, le tout premier accord universel sur le climat visant à réduire les gaz à effet de serre venait de naître, avec comme objectif de limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Je garde un souvenir très vif de ces instants alors que j'étais à Paris pour couvrir le sommet. Avec le recul, étant donné la vive opposition de certains pays, Peu de gens sur place y croyaient vraiment. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est adopté. Lançait Laurent Fabius, presque trop discrètement, de la tribune de la plénière, comme s'il voulait éviter de réveiller les opposants. Ovations spontanées, embrassades, des larmes même. L'événement reste à ce jour un des plus grands succès de la diplomatie climatique. 195 des 198 pays qui ont signé l'accord l'ont ratifié depuis devant leur propre parlement. Pensez-y, combien d'enjeux actuels font l'objet d'une négociation aussi large et complexe que la question des changements climatiques? Elle combine la finance internationale publique et privée, l'aide aux pays en développement, la coopération scientifique, le transfert de technologies, le développement de l'agriculture, le calcul financier du poids historique des grands pollueurs, le marché du carbone, l'adaptation au changement climatique, et j'en passe. Tout ça pour régler un problème difficile mais fondamental. Comment restructurer nos économies et comment convaincre les êtres humains de modifier leur mode de vie pour minimiser les effets du réchauffement? Le seul fait de rassembler tous les pays de la planète dans un accord sur un enjeu aussi complexe est une victoire pour le multilatéralisme. Près de 200 pays, dont certains minés par l'extrême pauvreté, d'autres en guerre ou sous la coupe d'un dictateur, ou d'autres encore peuplés de minorités autochtones, criblés de dettes ou enrichis par l'exploitation pétrolière. Ne serait-ce que pour cette improbable union d'intérêts si divergents, l'accord de Paris mérite toute notre attention.
Quel monde sans l'accord de Paris?
10 ans après son adoption, malgré cette carrure vertueuse, cette entente a-t-elle permis de sauver le climat? Bien sûr que non. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et la température de se réchauffer. Le dépassement de l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, le fameux seuil d'un réchauffement à 1,5 degré sur l'ensemble de la planète, est inévitable, disait récemment le chef des Nations Unies, Antonio Guterres. Une donnée que confirmait un tout récent rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, publié le 4 novembre dernier, selon lequel les probabilités que ce seuil soit dépassé, au minimum de façon temporaire, sont très grandes. Est-ce un accord inutile pour autant? Surtout pas. Il faut s'écarter de la vision simpliste que rien n'a bougé depuis 10 ans. Chaque fois qu'on me dit que cet accord n'a rien donné, je réponds toujours par une question. À quoi ressemblerait le monde sans l'accord de Paris? Voyons quelques chiffres. Avant 2015, en l'absence de l'accord de Paris, les prévisions des modèles climatiques décrivaient un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du siècle, un seuil dont les effets font craindre le pire aux scientifiques. 10 ans plus tard, avec l'accord de Paris en main, les données publiées mardi par le Programme des Nations Unies pour l'environnement indiquent que la planète se dirige désormais vers un réchauffement de 2,3 à 2,5 degrés Celsius, si les États respectent leurs engagements actuels. C'est même une légère amélioration par rapport à l'an dernier, où les projections faisaient plutôt état d'une trajectoire de 2,6 à 2,8 degrés. C'est un progrès insuffisant, mais certainement notable. Un autre exemple? Depuis la signature de l'accord de Paris, la croissance des émissions de gaz à effet de serre a nettement ralenti. Elles ont augmenté d'environ 1 % depuis 2015 contre 18 % entre 2005 et 2014. Leur rythme de progression annuel a été divisé par 5 par rapport à la décennie précédente. elles augmentent 5 fois moins vite depuis Paris. Ce n'est pas rien. Ce n'est évidemment pas assez au regard de ce que nous décrivent les scientifiques dans leur constat. Les émissions ne devraient plus croître, mais diminuer, et vite. Et 2,3 degrés, c'est mieux que 4, mais c'est encore un réchauffement qui laisse présager des effets dévastateurs. C'est trop, beaucoup trop. Mais admettons ceci, sans cet accord, la situation serait bien pire.
Un moteur utile?
Comment l'accord de Paris a-t-il permis d'améliorer un peu la situation? Après tout, c'était une entente juridiquement non contraignante. Malgré leur signature, les pays ne sont donc pas obligés de réduire leurs émissions. Mais les concepteurs de l'accord ont joué de finesse pour les inciter à le faire, sans qu'ils en soient contraints, et ainsi maximiser les effets du traité. L'accord de Paris est un modèle du genre. Son architecture a été conçue pour forcer les pays à se comparer entre eux. Car, même si l'entente n'est pas contraignante, les signataires doivent tout de même remettre chaque année à l'ONU un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre et soumettre, tous les 5 ans, une cible renforcée. Cela les pousse à rehausser régulièrement leurs ambitions. L'obligation pour les États de mesurer leurs performances, les uns par rapport aux autres, a créé une pression morale qui s'est révélée, au fil du temps, un véritable moteur. Qu'il s'agisse de protéger sa réputation, de vouloir faire figure de bon élève ou tout simplement de poser les bons gestes pour la planète, chaque pays a sa raison. Mais le résultat est le même. L'accord de Paris a incité les pays à mettre en place des programmes climatiques nationaux et à contribuer à ralentir la croissance des émissions. Il a agi comme un catalyseur pour lancer aux 4 coins du globe un mouvement de décarbonation. C'est là son plus grand succès. Il s'est imposé dans toutes les sphères de décision et a infusé subtilement l'esprit des décideurs politiques même les plus réticents. En 10 ans, plus de 140 pays se sont dotés d'un programme climatique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et 2070. En très peu de temps, le message porté par l'entente a percolé bien au-delà des États. Amplifié par une forte couverture médiatique, l'accord a contribué à ramener le débat sur le climat à la hauteur des citoyens, de manière concrète, compréhensible et difficile à ignorer. Sur tous les continents, des gouvernements locaux, des villes, des entreprises, des institutions publiques et des comités de citoyens se sont inspirés des objectifs de l'accord pour agir. En très peu de temps, le débat s'est déplacé sur le terrain économique. La croissance des investissements dans les énergies renouvelables s'est alors engagée à un rythme que personne n'avait imaginé. Pour la première fois de l'histoire, lors du premier trimestre de 2025, l'électricité produite par le solaire et l'éolien a dépassé celle générée par le charbon. En 2024, les énergies renouvelables fournissaient plus de 40 % de l'électricité mondiale et les investissements dans ce domaine étaient 2 fois plus importants que dans les combustibles fossiles. Mais un moteur très insuffisant. Bien entendu, toutes ces vertus de l'accord de Paris ne peuvent cacher le fait que tout ça est insuffisant et que la question climatique ne semble plus être à l'ordre du jour des gouvernements. Alors que la COP30 s'ouvre au Brésil, à peine le tiers des pays ont soumis ou annoncé une nouvelle cible rehaussée, bien qu'ils devaient tous le faire cette année. Avec ce qui est sur la table, l'ONU estime que les émissions mondiales reculeraient d'à peine de 12 à 15 d'ici 2035 par rapport à 2019 et de 9 à 11 si on exclut la cible américaine. Des résultats qui sont très loin du rythme nécessaire pour rester à portée d'un seuil de réchauffement à 1,5 degré, qui exigerait, selon les experts de l'ONU, une réduction des émissions de 60 %. Et si les énergies renouvelables explosent dans de nombreux pays de la planète, elles s'ajoutent trop souvent aux combustibles fossiles au lieu de les remplacer. La production de ces derniers ne diminue pas encore. Les signataires de l'accord de Paris ont beau s'être engagés à la COP 28 de Dubaï en 2023 à enclencher une transition hors des énergies fossiles, aucun pays n'a, pour l'instant, présenté des objectifs chiffrés de sortie du pétrole et du gaz. Le constat est brutal, et la COP 30 se présente avec de grands vents de face. Entre l'instabilité géopolitique, la fragilité économique alimentée par la guerre commerciale américaine et le virage anticlimat de l'administration Trump, le contexte joue plus que jamais contre les impératifs de l'action climatique. 10 ans après la signature du plus vaste accord climatique jamais conclu, les États reculent partout, ou presque, sur l'environnement. À commencer par le Canada, qui se distingue comme le cancre des pays du G7 en matière de réduction des émissions. Ce contexte peut-il sonner le glas de l'accord de Paris? C'est improbable, parce que la décarbonation est un ingrédient de plus en plus essentiel à la santé économique des pays. Un autre scénario peut encore s'écrire. Celui, peut-être, d'une alliance entre la Chine, qui prendrait le leadership de la décarbonation, l'Europe, dont l'intérêt stratégique de ne plus dépendre des énergies fossiles importées est clair, et certaines puissances émergentes, comme le Brésil, qui pourrait convaincre les autres pays d'investir pour sauver les forêts tropicales, l'un des grands aspirateurs de carbone de la planète. Si l'accord de Paris déplaît à certains pays, un fait demeure, il profite à tout le monde. C'était « Et s'il n'y avait jamais eu d'accord de Paris sur le climat, on en serait où? » Un texte d'Étienne Leblanc, paru le 8 novembre 2025 sur Radio-Canada.